cours de philosophie première par la Père Marie Dominique Philippe le 11 octobre 2001 à Saint-Judas.
D'abord, réponse aux questions. Puisque mon âme, c'est ma substance, ne peut-on pas dire que Dieu crée mon âme aussi bien qu'il crée ma substance? Oui, c'est sûr qu'il crée mon âme. Dieu crée mon âme. Alors, oui, vous allez voir la différence. Vous dites souvent que Dieu crée mon être. Ne crée-t-il pas donc pas également ma vie? Oui. Il crée la vie par mon être. Mais il ne crée pas mon être par ma vie. Il faut regarder Maître Eckhart là-dessus. Un grand dominicain rhénan. Maître Eckhart insiste beaucoup, Dieu ne crée pas la vie. Alors, ça fait bondir les gens, c'est-à-dire qu'il ne crée pas l'acte créateur de Dieu, c'est la formalité, c'est ciblé. Hein. Dieu ne crée pas la vie, il crée l'être, et il crée un être vivant. L'âme est un être, est un principe de vie. Dieu crée l'âme. Oui. La création se termine à l'être, formellement. C'est vrai. Le devenir, vous, on ne dit pas qu'on crée le devenir, on fait le devenir. Facere. On fait le devenir. Dieu crée l'être. Voilà. Ça a mis très longtemps. On vous demande de voir la distinction au bout d'un cours. Il y a eu plusieurs siècles pour distinguer les deux. Donc en quelques minutes, plusieurs siècles. On a commencé le facturer, le faire, quoi. L'artiste fait, il fait une statue avec de le quelque chose avant, la matière, hein. Il y a de l'argile avant, il fait, et pendant très longtemps on est resté à faire, et de là on a vu le démiurge. C'est pas le créateur le démiurge, c'est celui qui fait. Et le créateur est au-dessus du démiurge. Oui. La première chose qu'on a fait, c'est de faire, on a vu, Dieu est un forgeron magnifique. Il fait. Il a fait Adam. Il a fait Ève en se servant de la côte d'Adam. Il a été chirurgien d'abord. Il a pris la côte d'Adam et puis de là, il en a fait Ève. C'est très imagé, ça, mais c'est tout à fait le facturé. C'est pas du tout la création. La création, on ne voit rien. Vous n'avez jamais vu la création. Tandis que vous avez vu un maréchal mettre des fers à chevaux. Je me souviens avoir une fois conduit quelqu'un de la ville qui ne connaissait absolument pas ce que c'était que... mettre aux chevaux un fer à cheval. Vous savez pas ce que c'était. Il a vu un fer à cheval uniquement parce que ça porte bonheur. Mais il n'a pas vu à quoi ça servait. Et il n'a pas vu comment le maréchal Ferrand fait. Il ne savait pas. C'est quand même quelque chose d'intéressant, le fer. Et au début... on est passé du fer à l'acte créateur. Le faire porte sur le devenir. Le devenir. On a affaire à cheval, bien fait. Il faut le mettre sur les pieds du cheval. C'est toute une histoire. Mais alors, c'est le faire. Il faut revenir à nos expériences très simples de gosses qui admiraient ça. Il a peut-être jamais vu ça quand il était gosse, mais il habitait dans un appartement, alors il n'avait jamais vu le pied d'un cheval. Mais c'est vrai, on voit la différence, on voit que se faire, et ça joue énormément le faire à l'égard du faire. Ça, c'est quelque chose de très spécial, forgeron. Maître forgeron. C'est quelqu'un, maître forgeron. Alors, le faire touche l'être. Mais quand c'est l'être vivant, il touche la vie. Dieu crée l'être vivant. À parler tout à fait formellement, avec précision, je ne dis pas que Dieu crée la vie. Pourquoi ? Parce que quand on crée quelque chose, la réalité est dépendante de Dieu. Or, le vivant, c'est celui qui se meut. Ah. Alors, comment voulez-vous qu'il puisse être créé et se mouvoir ? Se mouvoir, il est principe. Créé, il est dépendant. Ah. Il faut donc qu'il y ait une métaction entre deux. Il crée l'être. Et cet être est vivant. Parce que cet être est suffisamment parfait pour se mouvoir. Et se mouvoir n'est pas au même niveau que l'acte Dieu créateur. L'acte Dieu créateur regarde l'être. Et le vivant se meut, ah, c'est la vie. Au niveau de la vie, vous pouvez être principe. Pas au niveau de l'être. Au niveau de la vie, vous êtes principe, puisque vous vous mouvez. C'est vous qui vous mouvez. Et c'est le propre du vivant, il se meut. Alors, la grosse différence entre vie et être, et l'ontologisme, c'est la confusion de l'être et de la vie. Dans Hegel, on a un ontologisme parfait. Il confond l'être et la vie. La distinction de l'être et de la vie, ça a mis du temps, ça c'est vrai. Et très vite, on les confond. Alors que dans la vie, par rapport à la vie, on se meut, et par rapport à l'être, vous n'êtes pas principe de votre être. La preuve, c'est que vous ne savez pas quand la séparation de l'âme et du corps se fera pour vous. Si vous étiez maître de votre être, vous sauriez. Dieu sait quand l'âme se séparera du corps. Dieu le sait. Tandis que moi, je ne le sais pas. Et j'en suis pas maître. Vous voyez ? C'est important au point de vue philosophique de voir où vous êtes maître. Le dominium. Ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et parce que ce que je ne peux pas faire là, j'adore Dieu. C'est Dieu qui fait l'union de l'âme et du corps. Et quand cette union a eu lieu de mon âme, à quel moment Dieu a créé mon âme ? Il l'a créé dans le petit embryon, dans le sein de la mère. À quel moment ? Voilà, c'est des questions actuelles. Le savant ne pourra jamais le dire. jamais le dire. Alors on voit très bien les gens très zélés pour surtout qu'il n'y ait pas d'avortement. Alors on dit Dieu a créé l'âme très vite, très vite, très vite. Je n'en sais rien. Pour saint Thomas, et saint Thomas est un saint, donc il ne dit pas de blague, pour saint Thomas, ce n'est pas tout de suite la création de l'âme. Bon, très bien, ce que dit saint Thomas, on peut le changer peut-être, mais c'est très difficile. Quand vous suivez l'évolution du fœtus, du moment de la conception jusqu'à la naissance, on peut suivre, on ne le suit pas exactement, puisque c'est des coupes. Mais les coupes sont suffisamment serrées pour qu'on peut suivre à quel moment l'âme était créée. C'est très difficile et c'est très intéressant. Et vous ne pouvez pas le savoir exactement. Alors quand quelqu'un de très catholique, parce qu'il y a des gens très catholiques, ils disent nécessairement Dieu crée tout de suite l'âme au moment de la conception. Vous avez de la chance de le savoir. Moi je leur dis ça. Vous avez de la chance de le savoir, moi je ne le sais pas. C'est vrai, il n'y a aucune définition de l'Église. L'Église n'a jamais dit quand l'âme était créée. Que l'âme soit créée, ça j'en suis sûr. Qu'elle est créée par Dieu, évidemment, sans intermédiaire, directement Dieu. Il a créé dans le corps, dans le fœtus. Mais à quel moment? C'est curieux, hein? Une chose aussi grande que la création de l'âme, c'est caché. Je trouve ça merveilleux, du reste, au fond. C'est caché. Et ça reste caché. C'est sans doute quand l'embryon a une autonomie par rapport à sa mère. Il a une autonomie. C'est un autre être. Mais dès le début, il est pour être un autre être et pour être un homme. Donc, dès le début, au point de vue de la finalité, je dois avoir le respect de cet embryon, le respect que j'ai vis-à-vis d'un homme, et d'autant plus grand qu'il est tout petit, sans défense. Un être sans défense, on le respecte plus qu'un être qui peut se défendre. Donc, Dieu crée l'âme dans l'embryon. Et créant l'âme, il crée un principe de vie. C'est évident qu'il crée un principe de vie. Mais la création formellement prise regarde l'être. Et par l'être, un être vivant. Un être qui a un principe de vie. Donc, il crée ma vie, c'est évident qu'il crée ma vie. Il crée ma vie, puisqu'il crée mon âme, et que mon âme est principe de ma vie. Mais formellement, il crée l'être. Alors, ici, une autre question. Vous avez dit que les animaux n'ont pas de substance. Faisons attention toujours quand c'est comme ça. Au cours, j'essaie de parler formellement. En dehors du cours, vous parlez non formellement. Alors ici, vous ne parlez pas formellement. Alors, substance, que ça veut dire substance pour vous? Demandez à n'importe qui. Au boulanger, qu'est-ce que c'est qu'une substance? Est-ce que le pain est une substance? Ah non, il est fait. Est-ce que le grain de blé est une substance? Est-ce que le petit chien qui est là à côté a une substance. La substance du chien. Alors, je veux bien, dans le langage courant, substance, tout dépend ce que vous entendez par substance. Si vous entendez par substance principe formel de l'être, de ce qui est, alors c'est différent. Principe subsistant. Ou bien il y a la nature. Pourquoi pas employer le mot nature, puisque le mot nature existe. Le mot nature existe pour des êtres dont tout l'être est dans le devenir. Tout l'être du chien est dans son devenir. Quand le chien mourra, son être disparaîtra. C'est pour ça que les cimetières de chiens, ça ne signifie pas grand-chose. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a la substance du chien qui demeure ? Et que tous les jours, vous saluez votre petit chien qui est mort, la substance du petit chien qui est mort, et qui demeure. Alors, posez-vous le problème. Vous voyez, à propos de la mort, quand le chien meurt, qu'est-ce qui reste ? Est-ce que son âme, est-ce qu'il y a un ciel des chiens où tous les l'âme de tous les chiens et donc quand vous serez dans le ciel, vous direz, je dis, bien, et j'ai mon chien qui je vais chercher la substance de mon chien, l'âme de mon chien. Il a été mon compagnon de détresse, de joie. Alors, est-ce que je vais chercher mon chien Sans mon chien, je ne suis pas parfaitement heureux. Quand vous verrez ça, Dieu, vous ne pourrez pas dire ça. Hein. Ce sera impossible. Ah, la substance. C'est quelque chose qui subsiste en soi. Alors, en parlant formellement, c'est-à-dire en parlant au niveau métaphysique. Mais comme le langage n'est pas au niveau métaphysique, je comprends. Vous pouvez l'employer. Vous avez dit que les animaux n'ont pas de substance, mais une nature. Mais la nature, est-ce que ce qui est commun à plusieurs ? La nature, elle est principe de mouvement. Voilà la nature, principe de mouvement. Tandis que la substance est principe d'être. Alors, la différence entre le devenir et l'être. Le devenir existe, mais il n'est pas l'être. Il est l'être qui devient. Le devenir, le mouvement. Tandis que si, Or, l'araignée dans la salle Saint-Jean est autre que celle dans la chapelle. Vous avez bien contemplé, ils ne sont pas les mêmes. Une demi-heure de contemplation de l'araignée. Elles ont la même nature, parce qu'elles sont des sœurs. Oui. Et parce qu'elles sont des sœurs, elles s'embrassent. Elles piquent de la même manière. Mais elles sont distinctes, tout à fait. Elles sont des individus distincts. La nature de l'araignée existe dans un sujet concret. Dans un sujet concret, qui est l'araignée. Et ce sujet concret, il a une forme, une nature, matière et forme. Et l'individu vient de la matière. Est-ce que cela n'exige pas de poser une substance, forme et matière, principe selon la détermination de cette araignée. Ça, c'est justement la nature. La nature se divise en nature-forme et nature-matière. Première distinction dans la philosophie de la nature. Vous pouvez distinguer la forme et la matière. Et vous voyez que la matière individualise. C'est sûr, il y a l'araignée chapelle, l'araignée salle de cours. Et elle pique différemment. Parce que vous n'êtes pas dans la même situation aux salles de cours qu'à la chapelle. Et elles ont un instinct qui est différent quant à l'application, c'est-à-dire au moment où elles veulent piquer. Parce qu'avant, elles risquent d'être écrasées. C'est vrai, quand l'araignée se manifeste en piquant, elle joue grave. Hein. Vous risquez de réagir et de dire « Ah, je t'en veux !» Votre réaction de l'irascible, elle est très forte, celle-là. Vous êtes piqué par l'araignée. Vous réagissez tout de suite. Plus ou moins vite. Voilà. L'araignée ferait un jugement très différent sur chacun d'entre nous. Celle-là, il ne faut pas le piquer parce qu'il réagit trop vite. Celle-là, je peux la piquer. Elle est toute douce. Donc, est-ce que cela n'exige-t-il pas de poser la substance ? Non, ça exige de poser la nature. Donc, il faut bien distinguer nature, principe de mouvement, pour tous les êtres qui se meuvent, qui ont la vie. Tout animal a une nature distincte. Et la nature est la même pour toute l'espèce araignée. Et elle se diversifie en raison de la matière. Et on dit araignée, toujours l'animal qui est capable de vous piquer. Vous distinguez la mouche de l'araignée. Et vous distinguez la mouche de l'araignée parce que l'araignée vous a piqué. La mouche, elle vous agace. C'est vrai, ça tourne autour. L'araignée ne fait jamais ça. Parce que si elle faisait ça, vous auriez le temps de vous défendre. Elle ne fait jamais ça. Elle ne fait aucun bruit, l'araignée. Avec la mouche, il fait du bruit. Alors, il y a des gens qui sont comme des araignées et il y a des gens qui sont comme des mouches. Alors là, vous avez des analogies de similitude. Vous voyez, vous regardez les qualités semblables, la manière semblable et différente dont elles jouent leur rôle particulier. Et toute nature particulière, toute espèce particulière d'animal a ses caractères propres. Il y avait un frère au Saulchoir chez les Dominicains, un père, qui s'intéressait aux araignées. Dans ses cellules, vous aviez toute espèce d'araignée, et dans des cages, bien tranquille, les araignées. Et je pensais toujours que si jamais il y avait un tremblement de terre et que c'était enfoui, il y aurait un historien qui aurait découvert cette cellule et dit, ah, c'est curieux, des moines dont le seul intérêt est de regarder les araignées. Ils se consacrent aux araignées. Parce que toutes les autres cellules auraient disparu. Il n'y en aurait qu'une qui resterait. Oui, ça me fait comprendre ce que c'est que l'histoire, ça. On découvre une cellule et on généralise. Alors que dans un couvent, lui, c'était particulier. Alors dès qu'on avait une araignée spéciale, on allait lui porter. un cadeau merveilleux. Et tout de suite, il inspectait. Il voyait s'il y avait ce type araignée qu'il avait déjà et ce type araignée qu'il n'avait pas. La nature se s'individualise par la matière. Et elle se détermine par un caractère particulier qui est toujours dans le mouvement vital. C'est la nature, ça. À la différence de la substance qui est au niveau de l'être. Donc, voyez bien, nature, principe d'opération, principe de mouvement. Tandis que la substance, principe d'être. Alors, maintenant, on continue de voir, après avoir analysé, découvert ce qu'est la substance au niveau de l'être, ce qu'est l'acte au niveau de la fin. L'intelligence humaine regarde comment les deux réalisent un être. Dans tout être existant, vous pouvez distinguer substance et acte. Dans l'homme, vous distinguez substance et acte. N'oubliez pas que la philosophie s'intéresse premièrement à l'homme, pas à l'araignée. S'intéresse premièrement à l'homme. Et toute la philosophie est tournée vers l'homme. Et je découvre la substance à partir de mon âme, à partir de l'homme. Et je vois que dans l'homme, son existence est dépendante de cette détermination de son âme. Et son âme a une détermination ordonnée à la vie. En métaphysique, deux seuls principes. Il n'y a pas de premier dans l'ordre de l'être au niveau matière. Parce que la matière est source du devenir. Elle est en puissance. L'être. Il n'est jamais plus qu'en puissance de l'être. La matière, elle existe dans le devenir et elle permet tout le devenir. Il n'y a pas non plus de principe métaphysique du devenir. Il n'y a pas de cause-efficience première. Alors là, il y a le problème, vous voyez, que très facilement on confond, on dit « Ah, ben, il y a la création. » La création est première dans l'ordre du devenir. Eh bien non, la création est première dans l'ordre de l'être. Et c'est là la grande confusion avec l'évolution. On confond évolution et création. Et ça, c'est très important de bien voir la différence. L'évolution, c'est toujours au niveau du devenir. Il n'y a pas d'évolution au niveau de l'être. L'évolution, c'est au niveau du devenir. Or, la métaphysique déclare et elle découvre qu'il n'y a pas de premier dans l'ordre de l'évolution. Il n'y a pas de premier dans l'ordre du devenir. Le premier est dans l'ordre de l'être. Dieu est le premier être. Dieu n'est pas le premier dans l'ordre du devenir. Ça, c'est très important. Parce que toutes les confusions qu'on a faites entre évolution et création, on dit que l'évolution supprime la création, mais pas, ce serait de dire que le devenir supprime l'être. Enfin, c'est idiot, ça n'a aucun sens. de dire ça. La création est au niveau de l'être. Alors, c'est sûr, vous n'expérimentez pas la création. Tandis que vous expérimentez le devenir. Ça montre la limite de l'expérimentation et le regard intellectuel de l'être. Quand vous dites « ceci est », c'est autre chose de dire « ceci devient ». Et dans toutes les langues, vous avez la différence entre « être » et « devenir ». Et l'évolution est du côté du devenir. C'est une matière particulière dont on devient. Mais l'évolution ne touche pas l'être. Et ça, c'est très important parce que ça fait des quantités de querelles entre les évolutionnistes et les créationnistes. Qui, en réalité, c'est deux domaines différents, tout simplement. Un domaine d'expérimentation. Vous n'expérimentez pas la création. C'est du reste pour ça, je crois, que la création de l'âme échappe. Personne n'a assisté à la création de l'âme. Tandis que j'assiste à l'évolution, le développement du petit fœtus. Et je peux signaler tous les moments où ce petit fœtus devient un être humain. Il est dès le début un être humain, parce qu'il est en vue de l'être humain, il est pour l'être humain. Alors, toute sa signification est de devenir un homme. Et s'il ne devient pas un homme, c'est parce qu'il y a eu un obstacle. Autrement, il devrait devenir un homme. C'est très, très important de bien distinguer le point de vue de la création. Vous n'expérimentez pas la création. Vous serez foudroyé si vous expérimentez la fin. Ce serait quelque chose d'affolant. Vous n'expérimentez pas la création. Vous n'expérimentez pas la néantisation. Vous expérimentez le devenir. Alors, voyez, ça montre tout de suite que la métaphysique repose sur le jugement d'existence. Ceci est. Et quand vous dites « ceci est », votre intelligence atteint quelque chose de spécial qui n'est pas la détermination, la nature, qui n'est pas le devenir, qui est l'être. Et votre intelligence est capable de faire la distinction entre « ceci est » et puis le devenir. Et ça, c'est très important de faire cette distinction-là. Parce que si vous ne faites plus cette distinction-là, vous tombez dans ce qu'on appelle en philosophie l'ontologisme. Dieu crée le devenir. Mais non, Dieu ne crée pas le devenir. Dieu crée l'être. Et un être qui devient. Dieu ne crée pas le devenir. Et donc, le monde qui devient, il est dépendant de causes secondes par les causes secondes, il existe. Mais les causes secondes n'atteignent jamais l'être. Ils atteignent le vivant, ils atteignent ce qui devient. Vous pouvez modifier le devenir d'une chose, mais vous ne pouvez pas créer cette chose. Mais vous pouvez modifier son devenir, si vous êtes attentif à avoir une plante qui pousse. Vous pouvez modifier son devenir en l'arrosant un tout petit peu trop. Vous arrêtez son devenir. En l'arrosant plus du tout, vous modifiez son devenir. Parce que vous pouvez faire que ça crève, que ça meure. Vous avez un pouvoir sur le devenir. Vous arrêtez le devenir. Et si vous arrêtez le devenir fondamentalement, vous faites que la chose crève. Mais vous avez atteint l'être de cette réalité par son devenir. Vous ne touchez que le devenir. L'intelligence seule est capable de dire ceci est. C'est pas en touchant. Oui, vous dites, cette table, elle existe. Est-ce que vous touchez l'existence de la table? Non. Vous touchez. Elle est très lisse. Elle était bien faite. Elle n'est pas rugueuse. Vous touchez du bois. Vous ne touchez pas l'être. Qu'est-ce qui touche l'être? Ah, c'est pas votre main. Vous ne dites pas que l'être c'est chaud, que l'être c'est froid, que l'être c'est rigide. Non, l'être, c'est votre intelligence. Votre intelligence née, elle apparaît quand vous dites « ceci est ». Alors que lorsque vous touchez quelque chose, vous dites « ceci est doux ». Ceci est rugueux, ceci c'est du bois. Et vous êtes dans l'incapacité de discerner si c'est du bois, sauf si vous êtes très habile, si c'est du bois véritable ou c'est artificiel. Vous pouvez distinguer, en le touchant, l'artificiel et le bois naturel. Mais souvent, on n'a pas suffisamment de finesse dans le toucher pour le faire. Vous voyez, comme les gens qui touchent tout de suite une matière, « Ah, c'est du coton, ça c'est de la laine, ah, c'est ce nylon, c'est rien. » Tout de suite. Et quand on n'est pas habitué, on se trompe. Donc, distinguez bien le sensible et l'être. L'être n'est pas sensible. C'est devenir. Le devenir est sensible, mais l'être n'est pas sensible. L'être est intelligible. Tiens, à vous distinguer les deux, ce qui est sensible et ce qui est intelligible. La philosophie ne se situe pas au niveau sensible, mais au niveau intelligible. Le devenir, c'est un être trop imparfait pour être. Il devient. Il est en mouvement. Et c'est ça, le devenir. Et c'est pour ça que, au point de vue expérimentation, tout est relatif. Puisqu'on est dans le devenir. Et le devenir est essentiellement relatif. Je ne touche jamais l'absolu. Je n'ai jamais touché l'absolu. C'est mon intelligence qui découvre l'absolu. Vous voyez cette distinction très simple, mais capitale, distinguer ce qui est de l'ordre sensible, de l'ordre imaginatif, de l'ordre intelligible. La métaphysique se situe dans l'ordre de l'intelligibilité. Cette intelligibilité est liée à l'imaginaire, est liée au sensible qui existe. L'imaginaire comme imaginaire n'existe que dans mon imagination. Donc c'est purement imaginatif, intentionnel. Or, aujourd'hui, des quantités de personnes vivent uniquement dans l'imaginatif, dans l'intentionnalité, et ne touchent plus la réalité. On éduque le monde dans l'intentionnalité. On ne l'éduque plus comme on a voulu été élevé, distinguer le réel de l'imaginatif. Tandis que si vous partez de l'intentionnalité, vous ne pouvez plus distinguer le réel de l'imaginatif. Et c'est ça qui est terrible dans l'éducation actuelle. Ils ne peuvent plus distinguer l'imaginatif du réel. Ils sont dans l'intentionnalité. Et l'imaginatif est intentionnel. Et c'est grave de ne plus distinguer l'imaginatif du réel. Vous faites la distinction tous les jours. Quand vous avez un rêve, le rêve est quoi ? Imaginatif. Il n'est pas réel, il est imaginatif. On vous a parlé le soir de tel événement, et vous l'avez enregistré dans votre imagination, et ça revient la nuit. Et ça revient quelquefois d'une façon terrible. Le gros chien qui est là et qui désire vous mordre. Puis juste au moment où il désire vous mordre, vous vous réveillez. Ah, heureusement, c'est un rêve. Donc, très vite, vous faites la distinction. Et les gosses ne font pas la distinction. Et c'est pour ça qu'ils pleurent avec leur cauchemar. Ils ont des cauchemars très longs. C'est vrai, aujourd'hui, ils ont des cauchemars très... Parce que ils vont au cinéma, et le cinéma, c'est le réel. Tandis que je connaissais un petit gosse que son père avait conduit au cinéma pour lui faire plaisir. Et l'enfant devant le cinéma dit « Papa, c'est pas vrai tout ça. » Son père a eu une peine énorme à lui montrer que c'était imaginatif, que c'était pas vrai. Il y avait un fondement réel très loin, pas direct. Mais son père a été obligé de quitter le cinéma, la salle de cinéma, parce que le gosse affirmait « C'est pas réel. » Et le gosse voulait vivre dans le réel. Or, la plupart du temps, on fait juste l'inverse. On regarde le réel par l'imaginatif. L'imaginatif est devenu tellement puissant que c'est à travers l'imaginatif qu'on regarde le réel. Et on dit ce réel, il est réel parce qu'il est conforme à l'imaginatif. La mesure devient l'imaginatif. C'est ça le grand péril de l'humanité d'aujourd'hui. Parce que ça, c'est un péril. C'est que l'imaginatif, l'intentionnel imaginatif, devient mesure du réel. C'est juste l'inverse du jugement de sagesse. C'est ce que Dieu pense qui est mesure de la réalité. Alors, ce que Dieu pense, je ne le saisis pas. Ou je le saisis au point de vue théologie naturelle, très difficilement, on le remplace par l'imaginatif. La philosophie devient d'autant plus importante pour distinguer le monde imaginatif du monde réel et de montrer que la vérité n'est pas dans le monde imaginatif. Dans le monde imaginatif, j'ai la sincérité, mais je n'ai pas la vérité. La vérité, c'est d'affirmer quelque chose qui est conforme au réel, conforme à ce qui est, à ce qui existe. Mais si ce qui existe est imaginatif, il n'y a plus de vérité. Je vous affirme que ce que je pense, c'est ce que j'imagine. Et donc, c'est ma vérité. Alors, je suis sincère, mais je ne suis pas vrai. Or, une des très grandes difficultés aujourd'hui, c'est de distinguer le vrai du sincère. Alors, au point de vue métaphysique, j'ai découvert les principes. Dès que j'écouvre les principes, je reviens au réel. Comment ces principes, substance, acte, existent-ils dans l'homme? Voilà la grosse question. Comment ma substance, mon âme et ma finalité existent dans l'homme? J'ai le retour à l'existentiel, ce qui existe réellement, vu dans les principes. Ayant découvert l'âme, ayant découvert ma finalité, la finalité de mon intelligence, de mon cœur, je regarde le concret, la manière d'exister de l'homme. L'homme existe d'une façon très spéciale parce qu'il est capable de modifier sa manière de vivre. Et en modifiant sa manière de vivre, il agit sur les principes de son âme et de sa finalité. L'homme est capable de vivre d'une façon toute spéciale que l'animal le plus développé n'arrive pas à vivre. Quelle est cette manière propre de l'homme de vivre? C'est sa personnalité. Si vous voulez découvrir ce que c'est que la personne, c'est cette manière spéciale dont l'homme peut vivre. Si je ne peux pas vivre de cette façon-là, ça prouve que mon être s'est arrêté dans son développement à 5 ans. Quand ma personnalité s'est arrêtée à 5 ans comme développement, je n'arrive pas à poser un acte libre. Je peux simplement me nourrir, ce qui est bon pour moi. Ce n'est pas l'intelligence qui joue, c'est l'estimative, ce qui est nécessaire pour vivre, manger, dormir. Je suis un petit être de vie végétative et ça ne va jamais plus loin. Tout se ramène à ça. Tout se ramène au repas, au sommeil. On a découvert des enfants enlevés par des louves, par des loups, et on les a découverts après quelques années, on a vu qu'il vivait à quatre pattes et qu'il aboyait et qu'il vivait comme des loups. Et c'est très difficile de les ramener à une vie humaine. Le développement de la vie, l'éducation. C'est vrai, quand on est tout gosse, on dépend dans son développement du milieu dans lequel on est. Et cette dépendance du milieu dans lequel on est, ça fait partie de notre éducation. On a été élevé dans tel milieu et ça reste. toujours. L'être humain est un être qui est terriblement sensible au devenir. Les prisonniers, quand ils sont revenus de prison, ont tous dit, je les ai interrogés, exprès, parce que ça m'intéressait. Ils ont dit, on a vécu des choses terribles que tout animal aurait crevé. Et l'homme a résisté. Et c'était leur réflexion spontanée. On a vécu des choses terribles, des choses qui auraient dû normalement faire que notre corps aurait disparu, que notre vie aurait disparu. Mais grâce à l'âme, à l'aspect spirituel, on a maintenu. Donc, il y a dans l'homme ce phénomène très extraordinaire d'une dépendance énorme de son milieu, une dépendance très très grande, et en même temps quelque chose qui dépasse le milieu pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai au noviciat. Votre milieu est complètement différent que le milieu que vous aviez dans le monde. Tout à fait différent. Alors, si vous êtes jeune, ça se fait facilement. Si vous êtes plus âgé, c'est difficile. Et quand on arrive à un certain âge, ça devient très difficile. On est moins souple. Tout simplement, se mettre à genoux, on est moins souple. Et intérieurement, on est moins souple aussi. Au fond, il y a quelque chose de très particulier dans l'homme, c'est que c'est le vivant qui connaît la plus grande évolution depuis le premier moment de sa conception jusqu'à sa mort. Vous avez connu tous les états. Et aujourd'hui, on est très attentif à ça. On est très attentif à cet état de vie utérine caché dans le sein de sa mère. Et on a vécu des moments qui était en dépendance très étroite avec notre mère. Si elle a connu de très fortes émotions, il y a une répercussion. Et cette répercussion sur le petit fœtus est inscrite dans son corps. On parle de la mémoire du corps. C'est très significatif. En réalité, il n'y a pas de mémoire du corps. Mais il y a ce fait que le corps encaisse d'être à côté de quelqu'un. Ce n'est pas indifférent. D'être à côté de quelqu'un qui tout le temps regarde ce que vous faites. Tout le temps. Il y a un voisin d'une indiscrétion remarquable. Qu'est-ce que tu fais ? C'est comme ça tout le temps, c'est très gênant. Vous êtes à côté de quelqu'un qui est très respectueux de vous et qui vous donne une très grande solitude. Pas une indifférence, une très grande solitude. Ça joue. Et ça joue beaucoup. Quelquefois, le noviciat devient insupportable à cause de ça. Alors, on n'ose pas le dire ou permettre. Mais on lui dit, quand ça devient impossible à vivre, on lui dit, changez-moi de place. Et il comprend très bien. Il a repéré, j'étais à côté. L'être humain encaisse. Mémoire du corps. Encaissé. Mais quand il est tout petit, il est très dépendant de sa mère. Quand il naît, il sort de cette dépendance de sa mère et il commence à être lui-même. L'être humain est l'être qui connaît le plus de variété et de changement et de modification. C'est pas étonnant qu'il projette l'évolution. Parce que c'est un être qui a évolué et qui évolue terriblement. Alors, qu'est-ce qui fait cette unité? C'est toujours vous. Vous ne vous rappelez pas votre premier moment, le premier moment de fécondation, ça. Vous ne vous rappelez pas, heureusement, du reste. Je serais curieux qu'on se rappelle ce moment où on était conçus. Notre âme était-elle là, n'était-elle pas là? Mais vous pouvez vous rappeler très bien les premiers moments de votre évolution, quand vous étiez tout petit. L'être qui évolue le plus, il y a une unité. L'unité qui est à la fois individuelle, c'est vous, le même individu. Et unité personnelle. L'individu s'est développé et la personne a grandi. Et il y a un moment où votre personnalité a pris très fort conscience de ce que vous étiez. Quand on appelle l'âge de raison. On va étudier qu'est-ce que c'est que la personne. Qu'est-ce que cette unité dans cette diversité à travers tous ces changements. Vous voyez, ce n'est pas un principe nouveau. C'est une manière d'être. Votre âme est présente. Elle fait l'unité. Votre finalité est présente. Elle fait l'unité. Vous avez deux principes d'unité. Et vous en avez même trois. Le corps, l'âme, la faim.